Aujourd'hui peut-être une très jolie chanson de votre père, Michel Sardou.
Ah oui, ça le situe bien, parce que c'est un homme très doux, très, très calme. Et j'avais oublié qu'il avait une petite voix comme ça, aiguë, légère. C'est tout à fait lui. Je crois que c'est une chanson qui... Quand je la rechante sur scène, je la chante beaucoup moins bien que lui d'ailleurs, parce que j'essaye de reprendre ce qu'il faisait sur scène. Mmh. C'était très, très agréable de le voir chanter.
Il y a longtemps que vous ne l'aviez pas entendu, cette chanson ?
Oui, assez longtemps.
Vous venez de dire, j'avais oublié la fin.
J'avais oublié la fin, oui, j'avais oublié, mon Dieu, qu'est-ce que ça. J'avais oublié ça.
Je voudrais maintenant, Michel, que nous parlions de vos débuts. Pas les débuts de la vedette Michel Sardou, mais les vrais débuts, aux côtés de votre père. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, car vous étiez bien jeune, vous aviez 6 ans, je crois.
Mm-hmm.
Et...
Je m'en souviens, très bien. Alors, c'est très très bien.
C'est d'enregistrement ?
Oui, oui, je m'en souviens. Je me rappelle de la salle d'enregistrement. Je ne sais plus où ça s'est passé. Je ne sais plus dans quel studio parisien c'était. Mais je me rappelle de l'endroit où c'était, parce que c'est l'époque où on enregistrait tout en direct. Il n'y avait pas de... Mm-hmm. Comme on dit maintenant, de recording, si vous voulez. Il y avait les musiciens, il y avait un micro pour le chanteur, si vous voulez, un micro pour les musiciens, et c'est tout. C'était pris en direct. Et comme j'étais petit, pour me faire parler à la fin de la chanson, mon père était obligé de me prendre dans ses bras et de me monter jusqu'au micro pour que je dise ma réplique. Ça, je me rappelle très très bien.
Donc, au moment où vous allez lire votre réplique, à la fin de ce disque que nous allons écouter,
mon premier enregistrement,
elle est venue, votre enregistrement, vous étiez dans les bras de votre père.
Et oui, il a été obligé de me porter pour me mettre à la hauteur du micro.
Elle est venue.
Je vais vous raconter l'histoire, ma plus belle histoire d'amour. Je vivais sans jamais y croire, j'y pensais pas, quand un beau jour, elle est venue, toute menue, avec des yeux remplis de bleu, comme le bleu de mon ciel bleu, toute candide, toute timide. Elle était là, moi j'étais là, comme un fada, je parlais pas, sans avoir dit un seul mot. Elle a souri, ça m'a tourné de ciboulot. Quel joli rêve, prendre ses lèvres, j'allais lui dire, ma chérie, elle est partie. Puis je suis allé en voyage, tout en me disant que l'amour d'une petite douce et sage, c'est merveilleux, mais un beau jour, elle est revenue, toute menue. Elle avait toujours ses yeux bleus, comme le bleu de mon ciel bleu, toute candide, toute timide. Elle me dit, si vous voulez m'avoir à vous, faut m'épouser et reconnaître aussitôt le bel enfant que je m'en vais avoir bientôt. Rempli de fièvre, j'ai pris ses lèvres, j'allais lui dire, ma chérie, elle est repartie. Elle est revenue pour la noce, elle s'est mariée en blanc. Mon Dieu, quel adorable gosse, quand le soir, dans l'appartement, elle est venue, toute menue, elle avait sa chemise bleue, comme le bleu de ses beaux yeux, toute candide, toute timide. Elle est tombée le cœur tout chaud entre mes bras comme un oiseau. Puis elle a dit comme ça, mon bel amour, vous ressemblez à mon papa. Oh, aïe, aïe, petite fille, quand tu babilles, tu peux d'un mot briser la vie. Mais mon histoire est pas finie. J'ai eu deux gosses et le plus rose, elle m'a laissé les deux petits. Elle est partie et moi aussi.
Papa, et les petits?
Les petits? Mais les petits m'ont suivi. Allez, tous les enfants, venez, allez, tous. Allez, changeons d'air. Hein.
Allez. Voilà, elle est venue, première manifestation de Michel Sardou.
La voix a un peu changé, j'avais l'accent à l'époque. Hein.
L'accent et une toute petite voix.
Extraordinaire. C'est une bonne chanson, je suis ravi de la réécouter.
Parce que quand on réécoute des chansons comme ça, moi c'est la seule chose que je regrette de ne pas pouvoir mettre dans l'histoire d'un jour, c'est ce que rappelle une chanson. Généralement, ça rappelle des odeurs, ça rappelle des couleurs. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette chanson, justement? Ça doit vous rappeler quelque chose, quand même.
Bah, ça me rappelle mon père, surtout qui était un personnage formidable dans la vie. C'était un distrait, un rêveur, un charmant, qui était toujours un timide, qui sur scène était très à l'aise et dans la vie très à l'étroit, si vous voulez. Mmh. Et qui avait des rêves, il rêvait tout le temps, il écrivait beaucoup de choses, il écrivait des poésies, il écrivait des films, il écrivait des sketchs. J'ai toujours vu mon père avec un crayon à la main et une feuille de papier en train d'écrire des histoires, en train de se... Il refaisait sa vie continuellement, sa vie d'acteur comme sa vie d'homme d'ailleurs. Et j'ai jamais considéré mon père en plus comme un père normal, comme je participais vraiment très près. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui, c'était un très bon acteur, très très grand acteur.
Bon, on reparle de lui dans quelques instants après une page de publicité. Cette fois, Michel, comme promis, je vais vous parler de ce fameux 29 juin 1947. Oui, bien, cette journée fut pour votre père l'une de ces journées dont on se souvient toute sa vie. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'au moment de la guerre, Fernand Sardou avait gagné la zone libre en emportant toutes ses économies, ce qui lui permit d'acheter à Nice une petite villa qui s'appelait, je crois, la Pitchounette. Mmh, c'est bien ça, hein?
C'est ça.
Et je crois que Pitchounette, en provençal, ça veut dire la toute petite.
La toute petite,
oui. Mais pour lui, ça avait un sens particulier. La Pitchounette, c'était, je crois, le titre d'une chanson qu'il avait créée autrefois à Marseille. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'a dit, ce que j'ai retrouvé dans des bouquins. Après la guerre, Fernand Sardou aimait y revenir souvent dans cette ville-là, pour s'y reposer, bien sûr, mais aussi pour vous permettre de profiter du soleil de la Côte d'Azur. C'est pourquoi, tout naturellement, en ce mois de juin 1947, toute la famille Sardou, vous compris, 5 mois, se trouvait à Nice, à la Pitchounette. Un soir, le bruit d'un moteur fait sursauter votre père. Il paraît que les années d'occupation l'avaient rendu un peu méfiant. Une somptueuse limousine noire vient de s'arrêter juste devant la porte de la villa. Un homme en casquette, lui aussi vêtu en noir, en descend et sonne. Ai-je l'honneur de parler à monsieur Fernand Sardou, dit-il. Oui, oui, répond votre père complètement abasourdi. L'homme plonge alors sa main dans sa poche et en sort un Bristol immaculé. Votre père remarque aussitôt que des armoiries sont gravées sur la carte. Les armoiries de son Altesse Sérénissime, le prince Louis II de Monaco, lequel demande instamment au sieur Fernand Sardou de bien vouloir lui rendre visite en son palais où son chauffeur personnel le conduira. Fernand court décrocher son unique costume présentable et suit le chauffeur princier sans demander d'explication. « Ah, mon cher Sardou !» lance son Altesse quand il aperçoit votre père. « Je suis charmé de vous voir. » Le prince est vêtu d'un discret costume à rayures claires et d'une cravate club grise. « Et si nous entrions bavarder un peu ?» dit le prince en passant familièrement le bras sur l'épaule de Fernand Sardou. Je le suivis au milieu d'un déluge de couleurs, de dorures, de marbre et de cristal, a raconté plus tard votre père, et je me prenais pour le prince Danilo de la Veuve Joyeuse. Mais c'était l'autre, le vrai prince. Quelques minutes plus tard, Fernand s'installe un peu gêné sur un divan, et le prince lui dit « Je vous ai fait venir pour vous demander si vous vouliez bien accepter de participer à mon jubilé. Il y a 25 ans que j'occupe ce palais, voyez-vous, et il paraît que cela se fête. J'ai pensé à vous parce que j'aime beaucoup vos histoires marseillaises et aussi votre voix que j'ai entendue jadis au Maroc. » En effet, le prince avait été officier dans la Légion étrangère lors de la guerre du Rif et n'avait pas dédaigné d'aller écouter les artistes de passage à l'Alhambra de Marrakech. Fernand Sardou avait été l'un d'eux. Mais ce n'était pas seulement les histoires marseillaises que voulait entendre le prince Louis II. Il savait que votre père avait aussi un grand talent de conteur et il voulait l'entendre dire un de ses contes des lettres de Montboulin, par exemple « Le curé de Cucugnan ».
Le Seigneur Dieu a daigné s'occuper de notre paroisse. Car voilà ce qui m'est arrivé à moi, Martin, curé de Cucugnan. Ça s'est passé il y a juste 3 jours. C'était le vendredi soir. J'étais agenouillé sur mon prie-dieu dans ma chambre et je suppliais notre Seigneur Jésus-Christ de sauver notre petite paroisse, qui n'est pas foncièrement irreligieuse, mais dont la foi n'est pas d'une activité militante. Et comme je me frappais la poitrine en me disant que c'était sans doute de ma faute et que la pendule du clocher sonnait à 8:30, je me suis senti tout drôle, comme si je m'évanouissais. Alors évidemment, je fis un effort, je me levais et à la place du mur de ma chambre, je vois une grande porte d'or. Une porte à double battant, beaucoup plus haute que l'on disait. C'était la porte d'or du paradis. Oui, mes frères. Moi, Martin, le fils du bourrelier de Fontvieille, et aujourd'hui curé de Cucugnan. Moi, misérable pêcheur, j'ai été transporté au ciel pendant quelques heures. Et j'ai le devoir de vous dire ici, impartialement, ce que j'ai vu de mes yeux vus. D'abord, à travers cette porte, j'entendais une musique suave, des violons, des harpes, des flûtes et des chœurs. Ah, les chœurs. Ça, alors les chœurs, ils chantaient mieux que nous, hein, et je dirais même, ils chantaient mieux que nos petits invités d'aujourd'hui. Tous mariés dans l'air, là, au-dessus de moi, comme un arc-en-ciel de musique. Ça me faisait un effet extraordinaire. J'étais heureux comme un petit enfant. Puis tout à coup, j'ai eu mauvaise conscience. Je me suis dit, Martin, tu es en train d'écouter en cachette la musique du paradis. Est-ce que tu es sûr que tu y as droit? Mais c'était tellement joli hein, que je me dis, tant pis, j'écoute quand même. Tout à coup, la grande porte à deux battants s'ouvre et qui je vois paraître? Le bon Saint-Pierre. Ah, il était beau. Hein. Il avait la barbe blanche, l'auréole, la clé de diamant et ça brillait. Ça brillait tellement que je ne pouvais même pas le regarder en face. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais c'est Monsieur Martin. Mais quel bon vent vous amène ici tout entier? J'ai dit, grand Saint-Pierre, comment je suis ici, ça je n'en sais rien. Mais c'est sûrement pas contre la volonté de Dieu, puisque j'y suis. Et de vous voir si bon là, et si brave, il me vient à l'idée de vous demander un petit renseignement. Mais il me dit, cher Monsieur Martin, qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Mais je dis, voilà, je voudrais savoir, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de tucunianés en paradis? Ah, ça, il me dit, Martin, je ne peux pas vous le refuser, parce que je comprends que ça vous intéresse. Mais tenez, entrez, asseyez-vous, et nous allons voir ça ensemble. Alors, il tire un gros livre, beau, hein, énorme, et tout doré sur tranche, naturellement, hein, et il dit, voyons, tucunian, ça y est, nous y sommes. Alors, il lit, il reçoit. Il me regarde et il me fait, Monsieur Martin, la page est toute blanche.
Oh, c'est le meunier, une grosse brute qui vient de rire.
J'en entends un que ça fait rire. Le malheureux. Parce que moi, mes enfants, je n'ai pas ri. Oh, mais pas du tout. Mon gosier se serre tout d'un coup, je reste une minute sans parler. Et le bon Saint-Pierre à côté me disait, mais remettez-vous, enfin je tousse un bon coup. La voix me revient et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, il me dit, ça veut dire, et qu'il n'y a pas une amitié, et pas plus de cucunianés que d'arêtes dans une dinde. Je lui dis, comment? Pas de cucunianés en paradis? Oh, mon Saint-Pierre, il doit y avoir une autre page. Mais il me dit, mais non, cet homme, regardez vous-même. Regardez, personne ici depuis 30 ans, parce que ce livre est commencé depuis 30 ans. Alors moi, je regarde, je deviens tout pâle, je deviens tout rouge. Et je lui dis, mais grand Saint-Pierre, alors, dites-moi que c'est une plaisanterie. Et que, mais il me dit, mais non, c'est la vérité pure. Ici, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Et puis arrêtez de vous chavirer le cœur, là, vous allez me piquer un mauvais coup de sang. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous n'y pouvons rien. Sûrement, vos cucunianés doivent faire une quarantaine en purgatoire. Des quarantaines de 30 ans? Ah, il me dit, oui, mais ici, c'est l'éternité. Et les choses les plus courtes marchent au moins par demi-siècle. Et puis, pour une amie mortelle, un demi-siècle, est-ce que ça compte? Tenez, moi qui vous parle, qui me fait, eh bien, je suis devant cette porte depuis bientôt 2000 ans, là. Mais il me semble que je viens d'arriver. J'ai dit, oui, mais vous, bon Saint-Pierre, c'est pas la même chose. Mais mes cucunianés, faites que je puisse les voir, les consoler. Est-ce que c'est possible? Et il me dit, ça, c'est pas très régulier. Ben, enfin, tenez, vous allez chausser ces sandales, là. Parce que les chemins, ils ne sont pas beaux de reste. Et vous allez filer droit devant vous, là, vous verrez. Au premier tournant à droite, il y a une petite porte d'argent, marquée de petites croix noires, hein. Vous frapperez, on vous ouvrira. Mais surtout, dites bien que vous venez de ma part, hein. Allez vite, parce que j'attends quatre jésuites qui sont en train de se faire martyriser par les Chinois. Alors je leur prépare une petite réception. Bon, allez, Adessia, portez-vous sain et gaillardez. Et me voilà parti sur un sentier rempli de ronces, d'escarboucles qui luisaient, des serpents qui sifflaient, et déjà, par-ci, par-là, quelques petites braises. Après, j'arrive à la porte d'argent, je frappe, pam pam, qui est là? Le curé de Cucignan, un curé?
Bien, Michel, on va interrompre votre père, là. Je crois que vous le connaissez par cœur.
Oh, ben, je l'ai vu, oui, j'ai vu répéter, j'ai vu apprendre, parce que Il en avait fait une série pour la télévision qui était filmée avec Pagnol. Mm-hmm. Et comme c'était Pagnol filmait tout d'un plan, je veux dire, il était obligé de savoir tout le texte par cœur et ça l'ennuyait un petit peu parce que c'était assez compliqué, assez long à dire. Alors je l'ai vu répéter au moins 100 fois, le curé de Cucugnan, il me l'a joué dans ma chambre, il me l'a joué à la salle à manger, il me l'a joué dans la salle de bain. Et meilleur, les rôles de curé l'ont beaucoup marqué, parce qu'il a été plusieurs fois, il avait une formule, il disait « Où je suis gangster ou curé ?» Il n'y a pas de limite. Et il avait fait le curé de Méditerranée aussi, qui avait marché pendant des années aussi, il avait été... J'ai souvent vu mon père en soutane, si j'ose dire.
Mais c'est vraiment un très bon acteur. C'est vrai que...
Moi, je le trouvais remarquable. Et bon, c'est toujours... je le dis très sincèrement, c'est pas du tout... Au contraire, je trouve que les enfants ont toujours un œil critique. J'avais un œil très critique vis-à-vis de mon père. Et dans tout ce qu'il a fait, que ce soit les opérettes, que ce soit les films, que ce soit les contes, comme ça, les trucs de Pagnol, les personnages, il était très, très lui, tout le temps, dans tout. C'est
vrai talent, mais il ne donnait pas l'impression de jouer. Quoi.
C'est ça, il ne donnait jamais l'impression de jouer, même dans des choses qui me paraissaient à l'époque un peu ridicules. Bon, un jour, je me rappelle, il m'avait emmené, c'était une des toutes premières fois où je le voyais, il jouait l'auberge du Fal Blanc, et à un moment donné, il était habillé en ours. Il s'habillait en ours pour faire peur à quelqu'un, je ne me rappelle plus dans l'histoire de la pièce. Et j'étais outré de voir mon père habillé en ours. Je lui ai dit, enfin, tu fais un métier ridicule. On t'habille pas en ours. Il me disait, mais c'est difficile de faire un ours. Il essaye de faire l'ours. Il avait raison, c'est un métier. Il était un très bon ours quand il faisait l'ours.
C'est à force de l'entendre répéter, de le voir jouer, que vous avez eu à votre tour envie de monter sur les planches.
Alors, je l'ai eu très tôt. Hein. Je crois que j'ai eu ça.
Enfin, c'est à cause de votre père?
Oui, beaucoup, bien sûr, parce que je vivais avec lui, c'est-à-dire je suivais les tournées très souvent, j'étais souvent sur les lieux de tournage de films, souvent dans les coulisses de théâtre où il jouait des pièces, donc je faisais partie des décors pratiquement. Alors ça m'a paru tout naturel d'embrayer là-dedans. Je ne me voyais pas dans une autre. Je ne savais pas si j'allais être chanteur ou acteur ou metteur en scène ou je ne sais pas, mais ça restait dans le domaine du théâtre ou du cinéma ou du cabaret de toute façon.
Bien Michel, nous allons revenir dans quelques secondes sur cette journée du 29 juin 1947, car je ne vous ai pas encore tout raconté, oui, je ne vous ai pas raconté le principal.
Je ne la connais pas en fait.
Bien Michel Sardou, maintenant nous allons en arriver à la fin de cette histoire du 29 juin 1947. Fernand Sardou, vêtu de son unique costume rescapé de l'occupation, se rend donc au palais de son Altesse Sérénissime Louis II de Monaco qui fête son jubilé en présence de tout ce que le Gotha compte de personnages importants. Très intimidé, Fernand Sardou entre dans ce palais dont les fastes n'ont aucune commune mesure avec les décors du Châtelet et on l'accompagne dans une grande pièce où se tiennent tous les acteurs, danseurs et artistes qui participent à la soirée. Immédiatement, Fernand se sent mieux, là il est dans son milieu, il se détend, et avisant une jeune fille déguisée en comique troupier, le nez peint en rouge vermillon et les joues poudrées à outrance, il lui demande « Dans quoi joues-tu ?»« Dans l'Idoire de Courteline », répond-elle. « Dis-moi, » reprend Sardou, confiant, « j'espère qu'on paye bien les artistes ici. »« Pas trop mal, » dit la jeune fille en souriant. « T'es sympa, » dit Sardou. « Toi aussi, » dit la fille. À ce moment, un majordome s'approche en s'inclinant devant la jeune fille et lui dit très respectueusement « J'informe votre Altesse que ça va être à votre Altesse d'entrer en scène. Évidemment, Fernand ne pouvait pas savoir que la propre sœur du jeune prince régné, la princesse Antoinette de Monaco, avait tenu elle aussi à participer au jubilé de son grand-père. Malgré ce léger incident, la soirée se déroule parfaitement bien pour Fernand Sardou. Leurs Altesses apprécient beaucoup sa voix et son talent, et la plus franche bonne humeur glacée préside aux festivités. Au cours du bal, un jeune garçon d'environ 25 ans s'approche d'un Fernand. Tout ce protocole me casse les pieds, dit le jeune homme. Ça vous dit quelque chose de venir chez moi? J'ai organisé une petite soirée. Et comment? Répond Fernand. Je te suis. Les deux hommes filent alors à l'anglaise vers le parc où le jeune homme a garé sa voiture, une Delahaye Sport, s'il vous plaît, bleu métallisé. Ils arrivent à une villa toute blanche où une bande de jeunes gens dansent déjà aux accords d'un orchestre de jazz. Le jeune homme court vers l'orchestre et s'installe à la batterie où il remporte un vif succès. Puis il revient vers Fernand Sardou, une bouteille de champagne à la main. Au fait, dit Fernand, comment t'appelles-tu? Oh ben, je m'appelle Régnier, dit le jeune homme, mais tu peux m'appeler Bob. C'était en effet le prince Régnier qui devait monter sur le trône de Monaco en 1949, 2 ans plus tard. Mm-hmm. Et voilà, Michel, comment votre père est devenu l'ami du prince de Monaco, ou plutôt son complice. Car ils se sont revus souvent, paraît-il, et ils ont même joué ensemble des sketchs et ils ont même fait des farces.
Oui, oui.
Vous saviez tout ça quand même?
Je savais.
Vous ne saviez pas comment ils s'étaient connus?
Je ne savais pas. Non.
Mais voilà comment ça s'était passé.
Je sais qu'un jour je suis rentré chez moi et que le prince Régnier dormait dans mon lit.
Ah bon?
Ils avaient passé la soirée ensemble, ça avait un peu traîné, et je rentrais de pension, il était très tôt le matin, je rentrais de la pension, je suis arrivé dans la chambre invitée à Montmartre à ce moment-là, et le prince avait dû se coucher très tard, ils avaient dû arroser un petit peu leur retrouvaille, et j'ai trouvé le prince régné dans ma chambre qui s'était endormi sur mon lit.
Il paraît que l'un des grands succès du prince était d'interpréter le rôle de Quasimodo de Notre-Dame de Paris, oui. Grimé, affreusement, etc.
C'est un bon batteur aussi, enfin, c'est un bon batteur.
Oui, c'est un bon batteur, oui. Il paraît également, mais ça c'est à vous de me le confirmer, Michel, que votre père conservait chez lui, dans un sous-verre, un poème signé Bob, alias Régnier III de Monaco.
Oui,
c'est vrai.
C'est exact, ma mère doit l'avoir toujours.
Qu'est-ce que c'est que ce poème? C'est une chanson?
Non, c'est plutôt une chanson.
Oui, c'est ça, oui. Il voulait faire des chansons avec votre père, hein. Et on a jamais
Il voulait monter un orchestre aussi, enfin, comme tous les musiciens, il voulait faire un groupe.
Mais il n'a jamais chanté, enfin, il n'a jamais fait de chanson pour lui, quand même.
Je ne crois pas. Je n'en suis pas sûr.
Moi, j'en ai cherché, hein. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé.
Non, après, il a été très absorbé par son métier de peintre.
Ouais, ça n'a duré que 2 ans, en France, cette
Ils se sont revus après, s'ils se revoyaient après, je crois, enfin, pas dévoiler des secrets d'État, parce que peut-être que ça n'y paierait pas. Quoi que ça m'étonne, parce que je l'ai revu il y a peu de temps, le prince Régnier, il m'a dit qu'il avait été très ami avec mon père. Ils se sont revus à Paris après. Ouais. Plus ou moins officiellement, c'est-à-dire après à l'occasion de voyages personnels, disons de déplacements personnels. Je crois qu'ils ont passé de bonnes soirées ensemble.
Eh bien voilà, Michel, ce qui s'est passé ce 29 juin 1947, à la fois pour votre père et pour les Français. Et puisque nous parlons aujourd'hui de vous sur Europe 1, moi je me suis permis de vous parler de lui qui était si fier de vous.
Vous êtes en train des nouvelles de votre fils?
Oui, on se téléphone, on se voit, hier on est passé 3 jours ensemble à Cannes, là. Alors, on choisit un endroit, on se rejoint, et on parle un peu de la famille, on parle un peu de... On n'a pas l'habitude de parler...
Est-ce que vous parlez métier?
Non, il n'aime pas ça, non. Non, il n'aime pas ça, puis moi non plus, d'ailleurs. Non, on parle un petit peu de ses chansons nouvelles, oui, évidemment, de ses succès, mais on ne parle pas métier, non. Et puis, non, mais il a de très jolies chansons, par exemple, des chansons que les gens connaissent moins. Par exemple, J'ai chanté, c'est très joli, ça. Et puis alors, Un enfant de toi, celle-là, ils la connaissent, les gens, mais pas comme l'autre. Mais quand même, Un enfant de toi, c'est formidable.
Vous en souvenez, quel était l'air déjà?
Un enfant de toi, un petit bébé, qui ressemblerait un peu à mon père. C'est peut-être pour ça que je l'aime, parce qu'il dit ça, quoi.
Un enfant de toi, sans être marié, un petit bébé, dis si j'en faisais un, ça étonnerait bien les copains. Moi l'idiot, le dernier des hommes, l'éternel absent, le moins que personne. J'aurais sur mon cœur quelqu'un de moins fort que j'endormirais avec mes chansons. Comme un dieu oublié du ciel, je l'admirerais, moi, son plus petit. Je l'élèverai tout seul comme un lion et je lui expliquerai la tâche originelle et nous en rirons dans le même lit. Thank you. marier un petit bébé. Tu m'en donnes, tu m'en fais, tu pourras retourner avec tes copains.
Michel, ce voyage dans le passé est terminé.
J'étais très heureux, très ému aussi.
En tout cas, c'est agréable de se promener dans vos.
Mais je pense que la chanson, la chanson qui a choisi mon père, c'est vrai, c'est une de mes préférées aussi, mais je pense qu'elle dit, il disait tout à l'heure que ça lui ressemblait un peu. Je crois que mon nouveau fils, celui qu'il n'a pas connu, lui ressemble beaucoup. J'ai l'impression que mon père est revenu avec David. C'est peut-être c'est ce que je pense profondément en tous les cas.
Merci Michel. Histoire d'un jour est terminée. C'était une émission réalisée par Christian Geldresch et préparée par Christian Plume. Demain, je vous retrouve à 14h pour vous raconter l'histoire du 7 décembre 1967, le jour où un ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, pour la première et la dernière fois, a proposé à un ravisseur d'enfants une trêve pour lui permettre de toucher sa rançon. C'était le ravisseur du Petit Maillard. Au revoir, à demain, 14h.